Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. L'hypertension artérielle représente la pathologie chronique la plus fréquente au monde. Elle touche un adulte sur trois, c'est-à-dire 1,5 milliard d'individus. La tension artérielle correspond à la pression que le sang exerce sur la paroi des artères. C'est grâce d'ailleurs à cette pression que le sang circule dans les organes. Mais une tension trop élevée entraîne un vieillissement accéléré des organes comme le cœur, le cerveau, les reins. C'est pourquoi elle peut entraîner un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Alors beaucoup de gens ignorent qu'ils sont hypertendus, parce que cette maladie n'entraîne pas toujours de symptômes, elle reste silencieuse pendant longtemps. Il est cependant possible de la prévenir et de la traiter. Alors justement, comment prévenir l'hypertension? Quels sont les progrès dans les traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Nicolas Postelvinet. Il est médecin dans l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il a publié l'hypertension artérielle aux éditions Odile Jacob. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Yves Moncam, qui est cardiologue à l'hôpital général de Douala et vice-président de la Société camerounaise de cardiologie. Docteur Nicolas Postelvinet, bonjour.
Bonjour Claire Hédon.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé pour parler de cette maladie si fréquente. D'abord, comment faire pour prendre l'hypertension? J'allais dire combien de fois pour vraiment pouvoir parler, prendre la tension et pas l'hypertension, pardon. Combien de fois pour être sûr qu'il y a hypertension?
C'est une bonne question parce que le point de départ, c'est la mesure. C'est pas ce qu'on ressent, si on est fatigué, pas fatigué, mal à la tête ou pas, c'est la mesure. Et il faut prendre sa tension de temps en temps. Ce qu'on a montré maintenant, c'est que, bien sûr, les infirmiers, les généralistes peuvent bien prendre la tension, mais la prendre soi-même avec des appareils qui sont de plus en plus disponibles, c'est de grande qualité. Et si on prend sa tension soi-même, avec ce qu'on appelle un autotensiomètre, il faut la prendre 3 fois le matin, 3 fois le soir, et pendant au moins 3 jours de suite, et 5 ou 7 jours, c'est encore mieux. Et c'est cet ensemble de chiffres de tension qui va permettre précisément de dire si une personne est hypertendue ou pas.
Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? Si on la prend qu'une fois quand on est chez le médecin généraliste, qu'est-ce qui se passe?
L'écueil possible, c'est dans un tiers des cas, ce qui est énorme, c'est quand on est impressionné d'aller chez le médecin, encore plus quand on va à l'hôpital dans les urgences, et à ce moment-là, de façon très naturelle, l'espèce de stress, d'anxiété, fait que vous augmentez vos chiffres de pression. Alors on croit que vous êtes hypertendu, mais c'était juste à ce moment-là le mauvais moment. Donc l'intérêt de l'automesure, c'est d'éliminer dans un tiers des cas des fausses hypertensions.
C'est ça, ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Donc l'automesure est très intéressante et il faut faire une moyenne de l'ensemble.
Absolument.
Concrètement, comment vous interprétez après ces résultats? Quel est le seuil où on se dit qu'il commence à y avoir un problème?
On se fixe une seuil qui est une règle scientifique internationale, qui est une moyenne à 135 et 85. On peut parler en disant aussi 13,5, 8,5 si on emploie d'autres unités. En langage courant, on dit souvent 13,5, 8,5. Et donc, si on dépasse ce seuil, on se déclare hypertendu. Il y a deux chiffres. Donc, quand le cœur pousse le sang dans les artères, c'est l'hypertension, c'est la pression systolique, le chiffre du haut. Donc, il faut pas qu'il dépasse 135, encore une fois, en moyenne. Et le chiffre du bas, la diastolique, ne doit pas dépasser 85. Mais attention, si on dépasse un tout petit peu, ce sont une hypertension très légère. C'est pas la même chose d'avoir un peu plus que 135 ou d'avoir carrément 200. Donc là aussi, dans l'interprétation, on prend en considération, bien sûr, la moyenne, mais aussi l'importance de l'élévation.
On va revenir à la fois sur le questionnaire aussi que vous avez mis en place et sur l'évaluation. On va parler d'abord des risques qui sont associés à l'hypertension. On a Marie qui nous appelle de Conakry en Guinée. Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez un témoignage à nous apporter. On vous écoute, Marie.
Oui, mon père est mort d'hypertension artérielle. Il souffrait d'hypertension depuis 5 ans. Et il est mort il y a 1 an et demi. Il suivait un traitement matin et soir. Et on n'a pas compris comment ça se fait qu'il ait fait un AVC il y a 1 an.
Alors justement, votre père est décédé d'un AVC suite à de l'hypertension artérielle. Docteur Nicolas Postelvinet, c'est bien ça le risque de l'hypertension?
Absolument, Marie, je suis vraiment désolé. Donc effectivement, quand on a une pression artérielle élevée sur plusieurs années, on peut avoir un vaisseau du cerveau qui casse ou qui se bouche. Et c'est l'accident vasculaire cérébral qui peut se solder soit par la mort, soit par une paralysie. La grande différence, c'est de savoir si cet accident survient jeune, mettons à 30-40 ans, ou si ça survient à l'âge de 80-90 ans. Parce que aujourd'hui, un tiers des causes de mortalité relèvent de la pression artérielle. Mais quelque part, si c'est à 90 ans, c'est un peu, entre guillemets, naturel. Mais si c'est à 40 ans, c'est un drame absolu, notamment pour toute la famille.
Et Marie, dans son témoignage, dit bien, mais pourtant son père était sous traitement pendant toute cette période. On peut être sous traitement et que ça ne fonctionne pas correctement.
Absolument. Il y a plein de causes d'échecs du traitement de l'hypertension artérielle, comme dans toutes les maladies. Mais globalement, il faut savoir qu'on dispose maintenant, depuis les années 80, donc ça fait longtemps, de médicaments très faciles à utiliser, qui posent pas de grands problèmes, mais si on les prend bien tous les jours, la grande majorité des cas, on obtient un traitement efficace.
Merci beaucoup Marie pour ce témoignage, témoignage d'ailleurs douloureux. Je voudrais qu'on revienne à l'interprétation des résultats et surtout à un questionnaire qui a été mis en place et dont vous avez validé finalement l'efficacité, un questionnaire qui serait presque à remplir avant de venir vous voir.
Absolument. En fait, la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est aussi de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut être bien organisé pour mesurer sa tension et faire un calcul de la moyenne qui est juste. Donc, pour ça, des outils internet sont très utiles. Et puis, le médecin doit poser une liste de questions qui est très importante. Nous, à l'hôpital, on a 100 questions. C'est énorme. Et on a réalisé depuis maintenant...
Il y a quoi dans vos questions, en gros ?
En gros, c'est les antécédents familiaux, d'où l'importance de la question de Marie tout à l'heure. C'est est-ce qu'on fume ? Est-ce qu'on fait de l'exercice physique ? Donc, c'est toute l'hygiène de vie. Et aussi, quelles sont les autres maladies ? Quels sont les examens, les radios qu'on a déjà passés ? Est-ce qu'il y a des prises de substances qui montent la tension, comme le réglisse, comme l'alcool, bien sûr. Et à ce moment-là, sans question, c'est impossible de s'en souvenir et ça prend trop de temps. Donc on a réalisé que si on mettait à disposition ce questionnaire très pointu au personnel même, elle le remplissait avant la consultation, chez elle, eh bien, on avait une meilleure organisation de la consultation. Et donc ça, ce questionnaire, il est sur Internet, il est gratuit, il est disponible et on a
on mettra tous les liens sur notre site internet.
Oui.
Hein.
On a intérêt à avoir une bonne collaboration entre le patient et son médecin. Il faut arrêter d'aller chez le médecin et d'oublier, par exemple, ses ordonnances. Là, on réalise avec ce questionnaire que une question importante, c'est quels sont les médicaments que vous prenez en ce moment. Et on s'aperçoit que finalement, assez peu de gens savent très bien répondre spontanément une fois au cabinet médical. Mais quand elles sont chez elles ont leur ordonnance, elles ont les boîtes de médicaments chez elles, et là, elles peuvent bien remplir ce renseignement qui est capital. Un médecin peut pas donner un traitement si on sait pas les autres qui sont pris.
Les autres traitements, justement. On a Claire qui nous appelle de Paris. Claire, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour docteur.
On vous écoute.
J'ai été découverte hypertendue il y a 4 ans suite à mon diabète. Là, ça fait 4 ans que je prends le même médicament, la tension, et elle augmente au lieu de baisser, elle a toujours augmenté, malgré que le médecin a augmenté la dose de médicaments. Je suis toujours à 150, 160. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, malgré les médicaments, avant, j'ai commencé à 30 mg, maintenant, je suis à 300 mg. Donc, c'est toujours pareil, ce qui a provoqué aussi des acouphènes. Et j'ai du mal à supporter ça.
Ouais, et vous vous demandez un peu quoi faire. Alors, peut-être que d'abord, docteur Nicolas Postelvinet, vous pouvez nous dire quel est le lien entre la question du diabète et de l'hypertension ?
Le lien du diabète et l'hypertension, c'est que ces deux maladies abîment énormément les artères. Et donc, chez tout diabétique, on est particulièrement attentif à faire un bilan, qui comprend un bilan de la vue, par exemple, un bilan des reins, mais aussi un bilan du cœur et de la tension. Donc, je pense que Claire, à cette occasion, a été mieux examinée par les médecins. Et c'est un petit peu, peut-être, une coïncidence. Hein. C'est pas le diabète qui provoque l'hypertension, disons pas complètement facilement comme ça. Mais à partir de là, on a découvert qu'il y avait une association qui est très fréquente.
Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans des cas justement où malgré les traitements, eh ben, la tension ne baisse pas ?
Alors, ça arrive en gros chez un tiers des personnes hypertendues traitées où on a peut-être ce qu'on appelle une hypertension résistante. Alors, une hypertension résistante, c'est l'échec de un médicament, puis deux, puis éventuellement trois. Une fois que l'association de 2 à 3 médicaments par un médecin généraliste, médicaments à bonne dose, avec des familles différentes, mais en échec, on a toujours une tension élevée, eh bien, à ce moment-là, le spécialiste fait un bilan plus complet, qu'on ne fait pas à tout le monde, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un tiers de l'humanité, donc on peut pas faire des bilans complets à un tiers de l'humanité. Mais quand l'hypertension artérielle résiste, on se met à regarder de plus près, notamment l'état des reins. Et donc, ce sont des prises de sang supplémentaires et parfois une radio des artères rénales.
Claire, j'aurais quand même une question à vous poser. Est-ce que vous prenez bien votre traitement?
Ah oui, tous les jours. J'ai jamais oublié de prendre les médicaments. Tous les jours, je prends les médicaments aussi.
Vous êtes une bonne patiente observante. Et est-ce qu'on vous a, justement, pour l'instant, vous êtes suivie quoi? Par votre généraliste?
Je suis suivie à l'hôpital, par un diabétologue. Et là, il m'a donné un carnet pour contrôler ma tension. Donc, elle est toujours élevée. Donc là, je crois qu'il m'a dit, si ça continue à être élevé comme ça, donc il faudra peut-être prendre un autre médicament à la place. Donc là, comme j'ai rendez-vous avec elle peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer encore.
Docteur Nicolas Postelvinet, donc on a des médicaments, dans ces cas-là, plus efficaces que celui qu'elle vient de prendre?
Alors, on dispose de 5 familles de médicaments que les médecins associent en cas d'échec d'un seul. On les associe et on les substitue, c'est-à-dire ce qui a été proposé à Claire, s'il y en a un qui marche pas, on essaye un autre, jusqu'à une combinaison de 2 à 3 médicaments. Et après, on passe la main aux spécialistes de l'hypertension quand on n'y arrive pas. La moitié des gens ont besoin d'au moins 2 médicaments pour régler leur tension, donc la situation de Claire est pas forcément très extraordinaire, mais elle a raison de continuer le bilan, elle a raison de faire des changements. Mais il faut bien que dans son dossier, elle note les médicaments qui ont été en échec pour que, en changeant de médecin, on recommence pas à zéro tout le raisonnement qui a été mis en place. Et c'est encore là l'intérêt du questionnaire que nous avons proposé, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans son dossier médical, se souvenir des médicaments qui marchent et qui marchent pas pour passer à l'étape d'après.
Merci beaucoup Claire et bon courage.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle. Docteur Nicolas Postelvinet, vous venez de nous dire qu'en cas d'échec de traitement, on essaye un deuxième traitement, un troisième traitement. Ce que je viens d'entendre, moi, dans le témoignage de Claire à Paris, c'est qu'elle est toujours restée avec le même traitement. Il y a quand même un problème de prise en charge de l'hypertension artérielle, même en France. Non, je me trompe en disant ça?
La bouteille peut être vue
à moitié vide
ou à moitié pleine. Donc, je vais refaire les deux réponses. D'abord, je pense que là, on a la chance en France d'avoir un système de soins de très grande qualité et de médecins qui sont de très bon niveau. Ça ne veut pas dire non plus, en affirmant cet aspect positif, que notre médecine n'est pas en difficulté, que des médecins sont hétérogène, et comme dans tous les métiers, il y en a des meilleurs que d'autres, et de temps en temps, on peut mal tomber, bien sûr.
On a Robert qui nous appelle de Rwenguéri au Rwanda. Robert, bonjour.
Et bonjour, journaliste RFI Santé.
On vous écoute, Robert.
Oui, j'ai une question, parce que je suis hypertendu. Bon, il y a de cela 5 ans que je suis sur le médicament tritazide, mais aucun changement, sauf seulement des petits soulagements. Et heureusement, ici chez nous, on vient de découvrir, les phytothérapeutes, un médicament capable de soigner pendant 15 jours l'hypertension. Mais à moi, je me fais des doutes. Alors, je voudrais demander au docteur s'il peut autoriser à prendre ces médicaments mis au point par les phytothérapeutes du Rwanda.
Et Robert,
dans 15 jours, on est totalement guéri.
Alors Robert, si je puis me permettre de rajouter un élément que vous avez laissé au standard quand vous avez eu Ophélie au téléphone, vous avez quand même dit que votre médecin vous le déconseille vivement. C'est bien ça, Robert.
Oui, c'est ça, en fait. Il me conseille de ne pas prendre ça, alors je voulais peut-être demander un avis contraire. Vraiment, parce que 15 jours...
Je ne vous cache pas que j'ai un tout petit peu peur que le docteur Nicolas Postelvinet dise la même chose que votre médecin. Très honnêtement, ma première réaction quand j'entends ça, c'est de dire, s'il y avait quelqu'un qui avait découvert un traitement qui permettait de guérir de l'hypertension, ce serait le jackpot, avec un tiers de la population adulte hypertendue, ça se saurait, non?
Absolument. Mais enfin, quand même, je voudrais dire à Robert qu'a priori, le traitement qu'il prend, qui est un diurétique, le tritazide, c'est un médicament qui fait uriner, qui soulage les excès de tension. C'est une famille très efficace et qu'on emploie. Donc, c'est peut-être pas assez efficace, mais si ça se trouve, si vous l'arrêtiez, Robert, votre tension serait encore plus haute. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est logique, quand on est en difficulté vis-à-vis d'un traitement avec un médecin, qu'on cherche d'autres voies, d'autres solutions. L'attitude un peu moderne, c'est premièrement, de vérifier que ce choix, on va dire un peu parallèle, ne soit pas dangereux. Il faut savoir qu'il y a des produits de phytothérapie qui sont dangereux, notamment pour le foie. Si c'est pas dangereux, le médecin dit « Ok, vous pouvez essayer », mais il dit « Moi, j'y crois pas ». Vous savez, comme a dit Claire, s'il y avait un truc efficace qui marchait en 15 jours, la personne, elle serait riche ici, mais si ça marchait, ça se saurait. Mais si c'est pas dangereux, vous avez une marge de liberté, vous pouvez essayer. Mais ce qui est très important, c'est que vous gardiez confiance dans votre médecin pour pas lâcher le premier médicament, sauf bien sûr si vous avez le sentiment que ce premier médicament ne vous convient pas du tout. Mais il faut essayer de négocier. Moi, je suis pas complètement catégorique, je vous interdis pas, sauf si c'est un médicament, dangereux, mais lâchez pas le premier, faites l'essai, puis on en reparle.
C'est ça, continuez votre traitement classique de la médecine, le triazide, c'est ça, mais vous pouvez prendre la phytothérapie en plus, mais c'est certainement pas en arrêtant l'autre traitement, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Absolument. Et le médecin est en droit de dire, vous savez, moi, la proposition que vous faites, moi, j'y crois pas. Mais voilà, c'est du dialogue, de l'échange, on a le droit d'être d'avis différents.
Robert, ça vous va comme réponse?
Bon, ça va. Je vais demander l'avis du médecin. Bon, je vais lui dire, c'est que peut-être que lui aussi est en train de me suivre, parce que je lui avais dit que, en fait, je vais m'adresser à un spécialiste au niveau des RFI. Alors, j'irai le voir et bientôt je ferai.
Et voyez, le spécialiste des RFI dit un peu la même chose que votre médecin, quand même. Et surtout, n'arrêtez pas le traitement.
Le premier.
Je n'arrête pas. Sinon, j'aurais déjà arrêté depuis très longtemps. Mais je continue toujours à en prendre.
Mais je trouve ce que vous dites, Robert, est très, très intéressant. Docteur Nicolas Postelvinet, c'est compliqué, ces maladies chroniques où il faut prendre le traitement en continu.
C'est galère. C'est galère, bien sûr. Personne n'a envie de prendre des médicaments tous les jours et c'est complètement normal. Nous ne sommes pas des machines. C'est normal d'oublier de temps en temps. Sauf que si on a une hypertension extrêmement sévère, l'oubli peut être dangereux et on fait un accident vasculaire cérébral dramatique comme Marie en premier témoignage nous l'a dit. Par contre, si c'est un oubli une fois tous les 15 jours, ça n'a pas l'importance,
c'est pas grave. Bon, merci Robert pour votre question, bon courage à vous. On a Barly qui nous appelle de Kinshasa en RDC. Barly, bonjour.
Bonjour Pierre.
On vous écoute.
Oui, merci. J'ai 40 ans déjà, c'est depuis près d'une année que je suis allé par 4 fois à l'hôpital pour cause d'hypertension. Justement, le médecin m'a dit de ne pas encore m'alarmer, il ne m'a pas encore diagnostiqué une hypertension. Mais clairement, moi, je souffre de ça par 4 fois. Donc, je me sens pas bien, je suis fatigué, des maux de tête qui n'en finissent pas. Donc, moi, je pense être hypertendu, mais lui me rassure toujours, me dit que non, voilà, il faut attendre, patienter. Chaque fois, on me fait des piqûres pour me reposer un peu et après rentrer à la maison. Comme vous disiez tout à l'heure, moi, je n'aime pas trop les médicaments, je ne voudrais pas être esclave des médicaments. Donc, ma question est de savoir si il serait possible de vivre avec ça, même si plus tard je serai diagnostiqué hypertendu, mais d'essayer de vivre avec les produits naturels, comme une alimentation spécifique pour essayer de bien vivre avec la maladie.
Docteur Nicolas Postelvinet, c'est intéressant ce que soulève Barly parce qu'effectivement, il n'y a pas que les médicaments. Les médicaments sont certes utiles, mais il y a une hygiène de vie aussi.
Absolument, on peut en parler, c'est très important. Juste une petite remarque. Il faut que Barly ait des chiffres précis de sa pression artérielle chez lui pendant une semaine. Et c'est seulement ces chiffres-là, la moyenne de ces chiffres, qui dira s'il est hypertendu ou pas. Il n'a pas besoin de médecin pour le savoir, il va sur Internet, il fait lui-même la manip. Et s'il est en moyenne en dessous de 135-85, il peut être rassuré.
Donc ça,
s'il est
ça,
bien
c'est
au-dessus,
important.
C'est que là, il y a une hypertension.
C'est ça, c'est ce dont on a parlé au début, ouais. C'est l'automesure. Il y a des appareils qu'on peut prendre en pharmacie et on mesure sa tension pendant 3 jours. Si vous le voulez bien, pour continuer à répondre à Barly, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Je vous redonne le numéro de téléphone, le 33 84 22 75 75. Et Barly, vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle avec le docteur Nicolas Postelvinet. Il est médecin dans l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est à Paris. Il a publié l'hypertension artérielle aux éditions Odile Jacob. Et vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous appeler. Avant les informations, on était en ligne avec Barly de Kinshasa en RDC. Il est toujours avec nous au téléphone. Il a 40 ans. Il n'a pas été vraiment diagnostiqué hypertendu, mais il a manifestement des poussées d'hypertension assez régulières. Vous lui avez conseillé ce que vous nous avez dit en début d'émission, c'est-à-dire un contrôle par lui-même de l'hypertension, deux fois par jour, matin et soir, pendant au moins 3 jours consécutifs. C'est
bravo,
ça, j'ai bien
c'est
retenu.
Exactement ça. Ouais. C'est bon. Et c'est sur automesure.com, si je peux me permettre.
Voilà, exactement. Vous avez
raison. C'est le site de l'hôpital, hein. C'est pas un site personnel.
On va vous reparler de tous ces sites internet, justement. Après, et il disait, bon, comme beaucoup d'entre nous, pas forcément fanat de prendre des médicaments, mais qui a envie d'ailleurs d'en prendre, c'est pas tellement la question. Il demandait, mais est-ce qu'il n'y a pas une hygiène de vie à adopter?
Bien sûr. Alors, l'hygiène de vie, on va la voir de deux façons. D'abord, la chasse aux ennemis. Les ennemis des artères, c'est le tabac, l'alcool et, dans la prise de sang, trop de cholestérol et du diabète. Donc ça, c'est très important. Il faut pas fumer, mais il y a en plus d'autres raisons pour pas fumer, et c'est la prévention notamment des cancers et de la bronchite chronique. Il faut pas boire de l'alcool en quantité excessive, c'est-à-dire 2 à 3 verres par jour maximum. Il faut savoir que trop d'alcool fait monter la pression artérielle. Et puis bien sûr, il faut que les prises de sang contrôlent l'absence de diabète ou l'absence d'anomalie du cholestérol. Et puis maintenant, les aspects positifs, c'est essentiellement la lutte contre l'obésité avec une alimentation variée, pas trop salée, et puis également l'exercice physique qu'il faut faire très régulièrement.
C'est ça. Merci beaucoup donc Barly pour votre question, parce que ça nous a permis d'aborder toute la question d'hygiène de vie. On a au téléphone le docteur Yves Moncam, qui est cardiologue à l'hôpital général de Douala, vice-président de la Société Camerounaise de Cardiologie. Docteur Yves Moncam, bonjour.
Oui, bonjour Claire et bonjour docteur Postelvinet.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de l'hypertension au Cameroun?
Disons que nous avons fait quelques enquêtes au niveau de la Société Camerounaise de Cardiologie. Donc ce sont des enquêtes qui sont souvent donc difficiles à le réaliser parce que ça demande certains moyens que nous n'avons pas, mais disons qu'on peut estimer la prévalence de l'hypertension à peu près 30% de la population adulte, ce qui représente à peu près 3 millions d'adultes. Mais dans la pratique de tous les jours, on se rend compte qu'il y a de plus en plus, que l'on constate beaucoup d'hypertension chez le sujet jeune.
Et docteur Moncam, est-ce que les Camerounais ont conscience de ce problème-là? Est-ce qu'ils en ont maintenant entendu parler, viennent consulter pour ça?
Oui, disons que toujours au niveau de la société donc de cardiologie, nous essayons donc d'informer le public par les médias, la radio, la télévision, la presse. Nous essayons de donner des conseils. Certaines sociétés aussi multinationales sont également donc un relais pour cette information. Alors, on constate qu'il y a une certaine frange de la population qui est informée, et qui est informée parce que les gens vont donc sur Internet. Ça fait que parfois la consultation qu'ils demandent est même peut-être excessive parce qu'ils ont lu qu'il y avait certains symptômes et quand ils ressentent...
Vous avez du coup quelques hypochondriacs qui arrivent et qui viennent vous voir.
Voilà.
Exactement.
Voilà. Et puis alors aussi, il y a beaucoup de gens chez qui l'hypertension est découverte de manière fortuite.
Oui.
Ils viennent à l'hôpital pour un problème ou pour un autre. Le médecin leur prend la tension et constate qu'il y a une tension artérielle élevée et parfois des chiffres très très élevés.
Docteur Nicolas Postelvigné, mais c'est la même chose chez nous, très souvent l'hypertension est découverte de façon fortuite.
Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en France, pour faire le parallèle avec ce que dit Yves Montcalm, c'est que les hypertensions qu'on découvre comme ça sans que la personne le sache et qui sont graves, c'est généralement des personnes qui n'ont pas de médecin traitant ou pas de médecin du travail. Autrement dit, pour la situation française, c'est des gens marginalisés qui sont en dehors du circuit social, c'est les populations précaires. Et ceux-là, les plus pauvres, sont très en danger par rapport à l'hypertension. Parce que si on prend sa tension chez le généraliste en médecine du travail régulièrement, on découvre des hypertensions légères, beaucoup plus faciles à traiter.
Oui, parce que la norme, quand on voit son médecin du travail ou son médecin généraliste, mais même le médecin généraliste pour une grippe, il commence par vous prendre la tension.
Voilà, c'est peut-être pas d'ailleurs ce qui est le plus utile, mais peu importe, globalement, ça fait de la prévention quand même.
Docteur Yves Montcalm, les médicaments sont-ils facilement disponibles au Cameroun? Mais quand je dis facilement, c'est surtout la question du coût.
Alors, effectivement, les médicaments d'hypertension artérielle coûtent, on peut dire, relativement cher. Et le problème, c'est que la plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, l'hypertension artérielle est tellement sévère qu'une monothérapie est souvent insuffisante et nous avons besoin d'une bi, voire d'une trithérapie. Alors, il y a des génériques qui sont disponibles et là aussi, il faut faire le distinguo entre les bons génériques et les mauvais génériques. Sur le terrain, on arrive à s'en rendre compte parce que lorsqu'on prescrit des génériques aux patients, le feedback qu'ils nous donnent nous permet de constater que ce sont toujours les mêmes génériques qui sont efficaces avec pratiquement pas d'effets secondaires et qu'il y a certains génériques qui donnent tout le temps les mêmes effets secondaires. Donc ça nous permet sur le terrain de faire le distinguo et de traiter quand même un certain nombre de patients à un coût raisonnable.
Juste docteur Yves Montcalm, quand vous dites ça, ça voudrait dire que vous avez des génériques qui sont homologués au Cameroun et qui ne le seraient pas en France? Est-ce que c'est ça la question?
Alors effectivement, s'il y a des génériques que l'on trouve au Cameroun, disons, ils n'ont pas le même nom commercial donc en France, mais disons que ce sont les mêmes molécules de base. Donc ça fait que quand un patient voyage, je lui dis toujours...
Sous quel nom il va le trouver dans un autre pays. Mais ma question, docteur Montcalm, c'était pas tout à fait ça. Je vais peut-être vous faire réagir d'abord, docteur Nicolas Postelvigné. Les génériques, à partir du moment où ils ont été homologués, par exemple, si je prends l'exemple de la France, ils sont aussi efficaces que le Princept.
Absolument. Et de toute façon, pour l'hypertension, c'est extrêmement facile parce que puisqu'on mesure la tension, on contrôle l'effet du médicament. Donc, on n'a aucun problème sur l'efficacité. La remarque supplémentaire, c'est que il n'y a pas eu de médicaments nouveaux importants dans l'hypertension artérielle ces 20 dernières années. Donc, nous traitons en France avec une grande efficacité tous les patients avec des génériques. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des génériques de contrebande en Afrique? Et là, c'est sans doute un problème très préoccupant.
Docteur Yves Montcalm, on l'a bien compris, hein, il y a une question de coût. Quand les gens sont obligés d'associer 2-3 médicaments, ça peut coûter combien par mois?
Disons que ça peut coûter... moi, j'ai pas mal de patients qui sont sous trithérapie avec des génériques et disons que ça peut leur coûter à peu près l'équivalent de 15 à 20 000 francs, c'est ça.
Donc ça fait à peu près 40 euros, je me trompe en disant ça, 45 euros
Un peu moins, c'est-à-dire dans les 20 et 30 euros.
20 et 30 euros, d'accord. Et vos patients, est-ce qu'ils suivent bien le traitement une fois qu'ils ont démarré?
Alors, là aussi, il y a une question d'information et d'éducation du patient, et c'est là que le médecin a un rôle très important, parce que trop souvent, je vois des patients qui sont hyper tendus de longue date, et quand je leur explique que le traitement est chronique et qu'ils doivent revenir périodiquement en consultation tous les 3 ou 4 mois, même s'ils ne ressentent aucun symptôme, comme je dis, ils sont hyper tendus, connus depuis parfois 10, 15, 20 ans, et ils m'expliquent qu'on ne leur a jamais dit ça. Donc il y a une information une éducation donc du patient à faire, et ça c'est un gros travail.
Je voudrais faire réagir le docteur Nicolas Postelvinet là-dessus. En France, si je ne me trompe, si j'ai les bons chiffres, seulement la moitié des hypertendus traités sont contrôlés par leur traitement, et la proportion de patients dépistés, traités et contrôlés est de 20% sur l'ensemble des hypertendus. Pas très bon, hein, très honnêtement.
Bouteille vide, à moitié pleine, à moitié vide. Premièrement, depuis ces 30 dernières années, le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire en France est un succès considérable. Et avant, on faisait un accident vasculaire à 40, 50 ans. Maintenant, les accidents vasculaires qu'on observe toujours, on les fait à 90 ans. Et ça, c'est dû au traitement. Maintenant, bouteille à moitié vide, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui prennent pas régulièrement leur traitement, et dans des conditions, dans des proportions, probablement très importantes, c'est-à-dire la moitié des personnes. Mais encore, il y a des oublis peu fréquents qui ne sont pas préjudiciables, et il y a des oublis très catégoriques de rupture de traitement qui, là, sont graves. La situation doit être nuancée. L'observance est un problème. Alors, ça me donne l'occasion, et ça avait été évoqué par Yves Moncam tout à l'heure, sur les problèmes des effets secondaires des médicaments. Oui, les médicaments de l'attention peuvent provoquer des effets secondaires. Il faut le dire au patient, si possible, à l'avance. Mais attention, c'est que 5% des gens seulement. Et on sait dans ces cas-là en parler, changer de médicament. Donc il ne faut pas nier qu'un traitement de temps en temps ait des inconvénients. Ça ne sert à rien de le nier. Mais il faut rappeler les avantages énormes du traitement.
Je voudrais qu'on parle justement, tant qu'on a Yves Moncam au téléphone, des sites internet que vous avez mis en place, d'accès gratuit. Vous nous avez déjà parlé d'automesure.com, c'est ça?
Absolument, ça c'est pour l'automesure. Trois fois le matin, trois fois le soir, pendant 3 à 7 jours de suite.
Donc ça vous explique comment faire?
Ça explique comment faire. Il y a des vidéos, c'est en français, en italien, en anglais maintenant, on va bientôt faire en allemand. Donc il faudrait le faire dans des langues différentes. On va le faire pour les sourds-muets, tenez aussi, avec le langage des signes. Donc ça, c'est un outil gratuit qui aide la relation entre la personne elle-même et son médecin, où qu'elle se trouve. Il faut juste avoir Internet. Ça, c'est pour la mesure.
Après ça, pour le questionnaire aussi.
Le questionnaire, alors là, c'est quelque chose de plus sophistiqué qui répond à notre démarche hospitalière et qui est sur le site de l'hôpital. Et l'adresse, c'est Centre Hypertension. Si dans Google, vous faites Centre Hypertension, vous avez le site internet d'hypertension artérielle de l'hôpital Pompidou et vous trouvez cet outil qui est un dialogue entre le patient, son généraliste, mais aussi son spécialiste. Parce que nous travaillons en place une relation entre les spécialistes, les généralistes et maintenant les médecins étrangers, si on aimerait développer ça.
Alors, on va mettre tout ça sur notre site internet et sur la page Facebook de l'émission. Et vous êtes aussi en lien, justement, à la fois avec des patients en Afrique et aussi des médecins.
Alors, la France a vocation, par des conventions, par des histoires partagées, à recevoir des patients internationaux en France, très très souvent africains, maghrébins, et pour notre vocation, c'est de voir les situations graves qui révèlent des causes rares d'hypertension artérielle. Et on s'aperçoit que si on prépare bien les dossiers par internet, et on prépare mieux l'hospitalisation qui doit être courte. Et une fois que les personnes sont rentrés dans leur pays d'origine, plutôt que de faire des déplacements coûteux ou de les abandonner, on essaye de mettre en place des liens internet pour les suivre un petit peu à distance. Tout ça est en expérimentation, ce n'est que le début, mais je pense que c'est utile de travailler en ce sens.
Docteur Moncam, juste une dernière question, vous êtes aussi en lien, vous, avec des médecins, des cardiologues en France?
Bien sûr, absolument, oui.
Merci beaucoup d'être intervenu, je rappelle que vous êtes vice-président de la Société Camerounaise de Cardiologie.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle avec le docteur Nicolas Postelvinet qui travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Les auditeurs sont très très nombreux à appeler, ils ont plein de questions à vous poser. On comprend bien quand on voit un tiers de la population adulte concernée par l'hypertension. On a Mahamadi qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Mahamadi, bonjour.
Bonjour, madame.
Burkina Faso qui est dans une situation difficile pour l'instant. Mahamadi, on vous écoute.
Oui, mon papa avait l'hypertension. actuellement, ma grand-sœur aussi a l'hypertension. Donc, je voulais savoir si c'était bon, héréditaire. Et puis, je voulais savoir aussi, bon, si boire du café quotidiennement, si pouvait provoquer l'hypertension, bien, pouvait favoriser, voilà.
Alors, Mahamadi, je vais me permettre de répéter vos questions, parce que la ligne téléphonique n'est pas très bonne. Vous avez 29 ans, votre père souffrait d'hypertension, votre grande sœur aussi, et vous vous demandez si c'est héréditaire. Et deuxième question, est-ce que boire du café au quotidien peut provoquer de l'hypertension? Alors, d'abord, la question de l'hérédité, docteur Nicolas.
Oui, bien sûr, là, la situation de Mahamadi évoque une hypertension familiale sur le caractère, bien sûr, du père et de la sœur, mais aussi de son caractère jeune, 29 ans, une hypertension.
Non, mais lui, il n'en a pas encore, ça. Lui n'en a pas encore d'hypertension.
Il n'en a pas encore, tant mieux. Mais quand même, il doit faire attention et donc bien mesurer la tension. Alors, ça peut justifier, s'il avait de l'hypertension, vérifié en automesure, de vérifier sur la prise de sang le fonctionnement de ses reins, ce qu'on appelle la créatinine, et puis également le taux de son potassium, ce qu'on appelle sur la prise de sang la kaliémie. Déjà, ces deux examens pourraient être très utiles chez lui si jeune, il avait de l'hypertension. Ça, c'est le premier point. Le café, pose aucun problème. Buvez du café tranquillement, ça accélère le cœur, mais c'est pas méchant. C'est l'alcool et le tabac, les amis.
Ça, oui. Franchement, arrêtez de fumer, par exemple, pour Mahamadi. Je sais pas s'il fume, mais ce serait la première chose à faire quand, en plus, il y a un terrain familial. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Mahamadi. Et on a Mamadou qui nous appelle d'Amsterdam, en Hollande. Mamadou, bonjour. Mamadou, on vous a perdu. On a Mamadou qui nous appelle d'Amsterdam, on ne l'a pas. Qui on a, si on veut bien me tenir au courant? Parce qu'on a Roger qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Roger, bonjour.
Bonjour Claire.
Je crois que vous avez un joli témoignage à apporter, alors on vous écoute Roger.
Voilà, je voulais effectivement partager ce témoignage. J'ai 48 ans, il y a un an et demi j'étais en surpoids, je pesais 126 kilos. Et je commençais à avoir des problèmes de respiration et d'étouffement. En allant voir mon médecin, il m'a vivement conseillé de me mettre dans une activité sportive pour régler un peu ma prise de poids et diminuer ça de manière considérable. Ce que j'ai eu à faire en faisant du sport en plein air, du sport en salle. En un an et demi, j'ai perdu une vingtaine de kilos et ma tension effectivement est descendue complètement à la normale à 135 directement. Ce qui fait que ça m'a permis d'éviter la prise de médicaments ad vitam aeternam.
Bravo Roger, franchement on a envie de dire bravo, non, docteur Nicolas Pastorini.
C'est très très bien, on aimerait que ça soit plus souvent le cas, bravo. Tâchez de faire des émules autour de vous, si vous voyez dans votre famille des gens en surpoids, arrivez à les convaincre de faire de l'exercice physique et vous avez raison, c'est formidable.
Beau témoignage, donc ça veut quand même dire que les règles d'hygiène de vie que vous nous avez rappelées tout à l'heure sont très très importantes.
Et c'est plus que ça. Nous, médecins, on doit faire un mea culpa. Nous avons été sous l'influence de l'industrie pharmaceutique de façon extrêmement forte, et même si les médicaments sont des choses formidables, à force de faire la promotion des médicaments, nous avons oublié de faire la promotion de l'hygiène de vie. L'histoire de la médecine montre par exemple que les cardiologues ont été très en retard pour lutter contre le tabac. Ce sont les pneumologues qui se sont mis en avant. C'était une erreur. Et la promotion de l'exercice physique, c'est en France par exemple extrêmement récent. Ça fait moins de 10 ans qu'on commence à dire avec l'OMS qu'il faut se bouger. Mais on a eu tort, mille fois tort. Donc il faut qu'on bouge, il faut qu'on fume pas, il faut qu'on fasse de l'exercice. Et les médicaments sont formidables, mais Pas seul.
Bravo en tout cas Roger et vraiment merci pour ce témoignage qui redonne de l'optimisme. On a Mamadou, on l'a retrouvé, je pense qu'il nous appelle d'Amsterdam en Hollande. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
En fait, j'appelle au sujet de mon traitement. J'ai été constaté hypertendu il y a beaucoup d'années de cela. J'ai aussi fait beaucoup de sport. Mais il se trouve que quand je prends mes médicaments, j'ai la tête qui tourne, j'ai beaucoup de douleurs, disons, dans mes jonctions, au niveau des bras et des pieds. Et il se trouve encore que j'urine beaucoup, et l'auditeur l'a dit précédemment. Et je me pose beaucoup de questions au sujet du médicament que je prends actuellement.
Alors, vous voudriez bien savoir si c'est les effets secondaires des traitements, tout ce que vous ressentez. Et du coup, vous dites quand je prends mes médicaments. Et ça veut dire que du coup, vous ne les prenez pas régulièrement à cause de ces effets secondaires?
Non, c'est qu'au début, avant de prendre les médicaments, comme l'auditeur précédent, j'avais d'abord opté pour les exercices. Donc, je faisais beaucoup d'exercices. Je prenais minimum 30 minutes, comme je l'avais une fois suivi aussi par par votre émission. Donc, j'avais... Mais par après, j'ai pris les médicaments. Actuellement, je le prends régulièrement, mais ça me donne beaucoup de problèmes.
Beaucoup de problèmes. C'est très intéressant, votre question. Je pense que vous avez des choses à dire, docteur Nicolas Postelvinet. Vous avez commencé à les évoquer tout à l'heure sur la question des effets secondaires de ces traitements.
Tout à fait. Donc, ma réponse sera générale. On ne peut pas, comme ça, par téléphone, arriver à comprendre la situation médicale d'une personne par rapport à ce qu'elle ressent. Mais c'est vrai qu'il y a des médicaments contre la tension qui donne des effets secondaires. Donc, les inhibiteurs calciques donnent un gonflement des chevilles. Les bêta-bloquants donnent parfois un ralentissement trop important du cœur ou de l'asthme. Et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent donner de la toux. Quand une personne se plaint des symptômes là que je viens de vindiquer, c'est assez facile de les rapporter aux médicaments antihypertenseurs. En revanche, quand la personne dit « Ah, je me sens pas bien, je suis un peu fatigué », ça, ce sont des symptômes très généraux et qui peuvent relever de causes très différentes des médicaments. Alors là, c'est plus difficile pour le médecin de savoir si le médicament est en cause ou pas. Il faut savoir aussi que traiter l'hypertension, ça peut aider aussi à soulager certains symptômes, même si c'est pas le but. Mais donc, c'est difficile de s'y retrouver.
Mais en tout cas, il faut effectivement signaler ces effets secondaires à son médecin et voir s'il n'y a pas un autre traitement dans ces cas-là. C'est
toujours
très important.
Toujours signaler, ça se discute, ça s'échange, ça permet de mieux se comprendre.
Merci beaucoup Mamadou de nous avoir appelé d'Amsterdam. Et on a Paulin qui nous appelle de Lubumbashi en RDC. Paulin, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour docteur.
On vous écoute.
En fait, moi j'appelle pour témoigner par rapport au problème que vous êtes en train de traiter. Mon père a le problème de tension, ça fait 32 ans, la tension et le diabète. Alors, pendant tous les 32 ans, il respecte très bien son régime, il est strict en la matière. Et il est là, on n'a jamais eu de problème. Moi, je crois que tout en étant en Afrique, l'on peut vivre avec les diabètes et vieillir. Je vous précise que mon père a 80 ans, donc on n'a jamais eu de problème. Et le grand problème qui se pose, parce que j'en ai vu dans mon entourage, tous ses amis et sa sœur, qui connaissent d'énormes problèmes. Et lorsque nous faisons, nous suivons, on constate tout de suite que ce sont des personnes qui ne suivent pas le régime alimentaire. Donc, je crois que le diabète, c'est pas du tout un grand
diabète
problème.
Diabète et hypertension, absolument. Merci Paulin pour ce témoignage. Il y a effectivement des patients qui arrivent à avoir à la fois une bonne hygiène de vie et à bien prendre les traitements.
Bien sûr, heureusement. Il faut aussi être très indulgent avec ceux vis-à-vis qui n'y arrivent pas. Des personnes qui n'y arrivent pas. Il faut savoir que les situations d'obésité, de troubles du comportement alimentaire, les personnes qui boivent trop d'alcool peuvent vivre des véritables galères, j'avais employé le mot tout à l'heure, peuvent être en dépression et ce sont pour le médecin toujours des personnes à aider et pas à culpabiliser. C'est la même chose pour le tabac. Nous sommes pas là médecins pour, entre guillemets, gronder ou punir, juger. On est là pour essayer de convaincre les personnes. Mais la vie est difficile. On peut avoir des drames professionnels, familiaux, qui empêchent d'avoir, par exemple, un mode de vie sain comme faire du sport. Quand on est épuisé, quand on est au chômage, eh ben, faire du sport, ça n'a rien d'évident. Il faut le savoir.
On a Marem qui nous appelle de Dakar au Sénégal et ce sera la dernière question. Marem, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je suis une fidèle de votre émission. J'apprécie beaucoup, je vous félicite et vous encourage. Je suis
Alors, oula, Marem, le seul problème, c'est que la ligne téléphonique est vraiment pas bonne. Il aurait fallu que vous soyez dehors, parce que là, vous êtes à l'intérieur et ça résonne. Il faut pas bouger quand vous nous appelez. On essaie de vous réécouter, on va voir si on peut vous entendre, Marem.
D'accord.
Allez-y.
Oui, j'ai dit que je suis une fidèle auditrice de votre émission. Je vous félicite et vous encourage.
Merci.
Je suis une Sénégalaise de 60 ans. Mon cardiologue m'a dit que je suis hypertendue, mais ma tension artérielle ne dépasse jamais 12,5 ou 13,9. Je ne prends pas de sel le soir. Je ne prends pas de gras. Je fais une heure de marche par jour. Je voudrais demander l'avis du médecin.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Marem. Docteur Nicolas Postelvinet, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on suit toutes les consignes alimentaires d'hygiène de vie que vous avez données, qu'on prend les traitements et que la tension est régulée, est-ce que ça veut dire qu'on est encore hypertendu? Est-ce qu'il faut arrêter les traitements? On fait quoi? Ou au contraire, ça veut dire que les traitements marchent?
Alors c'est une question très difficile et donc il faut s'y prendre avec méthode. J'y reviens. Premièrement, si on a fait une automesure impeccable, je suis désolé d'être obsessionnel comme ça, mais c'est le point de repère. Si on a fait une automesure impeccable, on savait au départ à combien sur une semaine on avait de chiffres de tension, si on était hypertendu ou pas. Après, si on est dans des zones comme celle de Marem, c'est-à-dire qui sont finalement des zones normales, on peut être amené à se demander si effectivement le médicament n'a pas été donné un peu trop vite, un peu trop tôt. Ça existe aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dépistées, mais il y a aussi quelques excès de traitement. C'est minoritaire. Et quand on est dans des zones très proches de la normale, il n'est pas totalement illogique d'arrêter ou de diminuer son traitement et de refaire une automesure impeccable un mois plus tard. Mais attention, j'ai dit un mois, j'ai pas dit six mois.
Et, si et avec l'accord de votre médecin.
Et avec l'accord du médecin. Et si la tension remonte, c'est que le médicament était nécessaire, on va le continuer. Et si la tension est normale avec des doses plus faibles ou moins de médicaments, eh bien, on reste sur ces doses plus faibles ou moins de médicaments, mais on refait un contrôle trois mois plus tard. Donc, il y a une petite adaptation que les personnes peuvent faire elles-mêmes. C'est un petit peu délicat, il faut bien comprendre sa situation, on revient à Internet, mais c'est possible, oui.
Et bien, surtout, ne rien faire sans l'accord de son médecin, sans en parler à son médecin, c'est important.
Oui, globalement, c'est bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des ordonnances qui sont pas parfaites.
Voilà. Merci beaucoup. On finira là-dessus, docteur Nicolas Postelvinet. Demain, on va parler des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Un téléphone si vous avez envie de participer. Le 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé qui m'a aidé à préparer cette émission. Didier Bleu, Assez Tous à Maquet, Ophélie Larsen et Laurent Hérault. Et à demain.